Chapitre 51. Samedi 1er juillet 1995. La mairie, qui est pleine à craquer, se vide peu à peu. Essentiellement des membres de la famille d'Amam et leurs intimes. Du côté de Nina, ses invités se résument aux Beaulieu, Adrien et Joséphine. Mais là est son essentiel. En serrant les mères d'Adrien et Étienne tour à tour dans ses bras frêles, elle pense que ce sont elles ses mères de substitution. Quand le maire a félicité les parents des mariés, elle a eu une pensée pour Marie-Laure et Joséphine, pas pour Marion. Ce sont elles qui l'ont accompagnée à Dijon pour choisir sa tenue. Elle ressemble à une robe de ballet, de couleur ivoire. Le bustier en soie et dentelle, partant en corolle de tulle à la taille jusqu'à mi-cheville. De jolies chaussures à brides, un bouquet de roses pâles dans les mains et un serre-tête en perles fines dans les cheveux. Nina est splendide. Tous les regards convergent vers elle. Une lumière plus forte que les autres qui éclabousse. Comme elle fait plus jeune que son âge, on dirait une toute jeune fille qui assisterait à son premier bal. Emmanuel, tout aussi élégant que sa jeune femme, en costume Dior gris clair, a la majesté d'un lord anglais. De mémoire de Comélois, on n'a jamais vu deux beaux mariés sur le parvis de la mairie. Étienne et Adrien sont les témoins de Nina. Ils viennent de parapher le registre. C'est comme s'ils avaient signé la condamnation à mort de leur ami en se fendant d'un sourire, sous les flashs du photographe engagé pour la journée. « Jeune homme, regardez-moi, relevez un peu la tête, oui voilà, comme ça. Moins timide, plus joviaux s'il vous plaît. » L'avant-veille, ils ont tous deux organisé l'enterrement de vie de jeune fille de Nina. Cela a contrarié Emmanuel, qui n'a pas pipé mot. « Après-demain, elle sera à moi pour toujours, » s'est-il dit. Lui aussi est sorti boire un verre avec d'anciens copains de promo venus spécialement pour le mariage. Il a fait semblant de s'amuser, ne pensant qu'à Nina, à en devenir fou. Les deux soirs précédant leur union, comme le veut la tradition, Nina a dormi chez elle et Emmanuel chez lui. À partir de ce soir, Nina ira vivre au château toute l'année. C'est Joséphine qui habitera sa maison. « Tu es sûre de vouloir quitter l'appartement, maman ?» lui a demandé Adrien. « Ce mariage, il ne va pas durer. »« Tu es bien pessimiste, mon fils ?»« Non, maman. Optimiste. » »« Ça tranquillise Nina. Et s'il faut partir, je partirai. Je trouverai bien autre chose à louer. Et depuis que tu vis à Paris, je ne supporte pas de passer à côté de ta chambre éteinte. J'ai le sentiment que tu es mort. Maman. » »« C'est vrai, il faut que je bouge, que je change d'air. » Le soir de l'enterrement de vie de jeune fille de Nina, Étienne et Adrien sont passés la chercher à 20h30 chez elle. Ils ont été surpris d'y trouver Emmanuel. Passé en coup de vent pour embrasser ma future femme. Ils se sont serrés la main vigoureusement, alors que tous leurs gestes et regards trahissaient une animosité réciproque. Après leur avoir posé quelques questions polies sur leurs études à Paris, Emmanuel a fini par partir, en lâchant sur un ton paternaliste. « Soyez sage, ne faites pas faire trop de bêtises à ma petite femme. » Étienne a su garder son calme, mais Adrien a eu envie de lui casser la gueule, comme il l'avait fait avec Pi. Quand Emmanuel a passé la porte, Nina a presque l'air soulagée, comme si elle se permettait de redevenir une adolescente. Les trois ont commencé par se redire bonjour, comme il faut. Ils ne s'étaient pas vus depuis Noël, 7 mois, une éternité, et seulement 2 jours ensemble. Quand Étienne et Adrien étaient revenus à la Comelle le 24 décembre, Emmanuel avait fait la surprise d'emmener Nina dès le 26, sur une île au soleil pour fêter le nouvel an. « Il l'a fait exprès », avait pesté Adrien. « Il savait qu'on rentrait. » Étienne avait dédramatisé. « C'est son premier réveillon sans son grand-père. C'est peut-être aussi bien qu'elle ne soit pas là. » Ils se sont serrés dans les bras, chacun à leur tour, un long moment. Adrien a craqué. Il a pleuré sur l'épaule de Nina. Lui a soufflé. « C'est très dur sans toi à Paris. La vie sans toi. » Étienne les a regardés sans rien dire. Les garçons ont découvert la maison de Nina remeublée et redécorée, les peintures et les fenêtres en PVC. Ils ont eu du mal à reconnaître l'ancienne habitation de Pierre Beau. « Emmanuel, t'as vraiment acheté la maison ?» a demandé Adrien. « Sur la société. Ça veut dire qu'elle n'est pas à toi. Ce qui est à lui est à moi. » Il y a eu de brefs échanges de regards entre Adrien et Étienne, et ce dernier a dit « C'est pas le tout, ma cocotte, mais là, on va y aller, c'est ton enterrement. Où vous m'emmenez ? Ils lui ont posé un bandeau noir sur les yeux, l'ont guidée jusqu'à la voiture et assise sur le siège passager. Adrien est monté à l'arrière. Ils ont roulé environ 5 minutes. Marie-Laure avait prêté sa Clio à son fils. Pendant les 5 minutes de trajet, Étienne a juste dit « La bagnole est toute neuve et le réservoir est plein. Vous m'emmenez où ? Dites-moi. Tu crois quand même pas qu'on s'est emmerdé à te mettre un bandeau sur les yeux pour te dire où on va ?» Étienne a coupé le moteur, a saisi un objet dans le coffre, un bruit de métal. « Vous allez me tuer et cacher mon corps, c'est ça ?»«
Ouais »,
a répondu Étienne, les dents serrées. « Vous m'en voulez ?» Étienne et Adrien se sont à nouveau regardés. De la même manière que lorsque Nina avait dit, à propos de son futur mari, « Ce qui est à lui est à moi. » « Non », a fini par répondre Adrien. « C'est à moi que j'en veux, de ne pas avoir su t'enlever de force. » « Je suis heureuse ici », a dit Nina d'une voix désolée, comme pour les rassurer ou s'excuser. Ils lui ont pris la main, Nina au milieu, Étienne sur la gauche, Adrien sur la droite. On marchait quelques mètres. Étienne a déplié une échelle métallique. Adrien est passé devant, a pris les deux mains de Nina et l'a aidée à franchir une grille en fer. Nina a d'abord senti de l'herbe sous ses pieds, puis l'odeur du chlore. « On est à la piscine !» Elle a enlevé son bandeau. Le jour baissait. À cette heure-là, l'établissement municipal était désert, fermé au public. L'eau bleue des bassins hésitait entre le marine et le mauve. Des nuages de chaleur s'y reflétaient encore. Ils ont retiré leurs chaussures. Les dalles étaient froides, l'air doux. « On a le droit d'être là ?» a demandé Nina. « Ben non, c'est ça qui est marrant, » a répondu Étienne. En sortant une bouteille de Malibu et du jus d'ananas de son sac à dos. « Je t'ai amené ton truc de nana. » Il a continué à vider son sac. Paquet de chips, verre en plastique, whisky, coca, serviette de bain, pain au chocolat, de la marque préférée de Nina, bonbons, un maillot de bain emprunté à Louise qu'il a tendu à Nina. « Je pense qu'il devrait aller. » Nina a levé les bras vers le ciel et crié « C'est vous les meilleurs !» Faut pas qu'on nous entende. » Il ne leur a pas fallu plus de 3 minutes pour se retrouver dans le grand bassin, à enchaîner les sous-l'eau, toucher le fond, chronométrer leur vitesse, se faire couler tour à tour, Nina sur le dos des garçons, les bras agrippés autour de leur cou. De temps en temps, Étienne sortait pour remplir leur verre, sa petite radiocassette en sourdine. Il avait pris soin d'enregistrer leurs morceaux préférés à tous trois, ce qu'ils avaient le plus écouté ces 10 dernières années. Tous sans distinction, même ceux qu'ils n'aimaient pas. Aha, The Sun Always Shine on TV. Cock Robin, The Promise You Made. Étienne Dao, Le Grand Sommeil. In Excess, Need You Tonight. Mylène Farmer, Ainsi Sois-je. The Christians, Words. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Depeche Mode, I Feel You. The Cure, Charlotte Sometimes. David Bowie, Rebelle Rebelle. Indochine, Un jour dans notre vie, Too Unlimited, Let's the Beat Control Your Body, un mélange improbable qui, au fond, leur ressemblait. Ils ont nagé longtemps dans l'eau noire. De temps en temps, ils se faisaient peur. Étienne fredonnait la musique du film Les Dents de la Mer en tournant autour de Nina, qui hurlait dans l'eau pour ne pas qu'on l'entende. Ils ne sont sortis qu'une fois pour monter sur le plongeoir de 5 mètres, se sont pris la main, ont sauté dans la nuit, sans voir le bassin en contrebas. Ils sont rentrés tous les trois ivres morts à 4 heures du matin chez Nina. Ils grelottaient, riaient, trois idiots beuglant les chansons de leur jeune vie. « J'ai eu droit au plus bel enterrement de vie de jeune fille de toutes les jeunes filles du monde. Merci. » Elle s'est mise à penser à son grand-père, à pleurer toutes les larmes de son corps sur leurs épaules. Ils ont pris une douche brûlante pour se réchauffer, se sont allongés sur le lit de Nina tous les trois et ont commencé à lire des BD. Les deux garçons ont fumé un pétard. À chaque fin de page, Adrien ou Étienne disaient « Fini !» et Nina passait à la suivante. Vers 5 heures du matin, commençant à s'endormir, Nina a demandé « Vous avez déjà eu envie de moi ?»« Ta gueule !» lui a répondu Étienne. « Vous pouvez tout me dire, je me marie. »« On peut tout te dire ?» a fait Adrien. « Ok, le réservoir est plein, la voiture est neuve. Demain matin, on t'emmène loin, très loin. Et en septembre, tu viens avec nous à Paris. Mais je vais me marier, Ben, ce qu'essaie de te dire Adrien, c'est que tu peux encore annuler. Et ma robe? On la vendra, ta robe. Mais je ne peux pas faire ça à Emmanuel. Sauve-toi, Nina. Viens avec nous. On s'occupera de toi, l'a supplié Adrien. Et ma maison? Ma mère s'y installe, t'es tranquille. Je ne peux pas abandonner Emmanuel. Je l'aime. Il est merveilleux. C'est la vie qui est merveilleuse. S'il t'aime, il t'attendra. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas vous réjouir pour moi, pour une fois. Vous êtes deux jaloux. Jaloux? Ma pauvre fille, ta vie de château, j'y crois que dalle. S'est emballé Étienne. C'est qui nous a lâchés? On ne devait pas vivre tous les trois à Paris? Toi, t'es qu'un connard qui comprend rien. Connasse toi-même. Adrien est intervenu. Vous êtes devenu fou? C'est elle qui m'énerve, s'est agacé Étienne. Je t'énervais pas quand tu avais besoin de moi. Quoi? Quoi? Vas-y, explique. Qui se tapait tous tes devoirs pendant que tu ne foutais rien au bahut? Ça va, t'étais bien contente de profiter de mon fric. Ton fric? Quel fric? T'étais bien calée quand on t'a emmené en vacances. On se calme, a tempéré Adrien. Oh, toi, ça va, lui a répondu Nina. On sait jamais ce que tu penses. Ah ouais? Ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas que tu te maries. Pourquoi? Donne-moi une bonne raison. Tu es trop jeune. Ce que tu ne comprends pas, Adrien, c'est que le jour où mon grand-père est mort, j'ai arrêté d'être jeune. Et que celui qui m'a tendu la main, qui s'est occupé de moi, c'est Emmanuel. Quand vous êtes partis tous les deux à Paris, ça vous a arrangé qu'il soit là. Vous n'avez pas eu à gérer mon chagrin. Lui, si. Ils se sont tus, se sont calmés, se sont regardés, ont regretté de s'être engueulés. Étienne a roulé un nouveau pétard. Nina est descendue dans la cuisine pour récupérer un fond de whisky et trois verres. Ils sont restés ainsi plus de 15 minutes, sans rien se dire. Le jour commençait à se lever. C'est Adrien qui a rompu le silence. Il faut que je vous dise quelque chose. Eh ben, c'est pas trop tôt, a lâché Nina. Tu préfères les garçons, c'est ça? Non, il préfère ma sœur, a fait Étienne. Adrien a rougi. J'ai commencé à écrire un roman. Les deux autres l'ont regardé sans comprendre. Il est plus facile d'écrire que de dire, a ajouté Adrien. Tu vas parler de moi dans ton bouquin? S'est enflammée Nina. Si je parle de moi, je parle forcément de toi. Et de moi aussi? S'est inquiété Étienne. Pourquoi? Il y a des choses que je ne devrais pas dire? L'a questionné Adrien. Les deux garçons se sont affrontés du regard. J'ai raté un épisode? A demandé Nina. Aucune réponse. Comment je vais m'appeler dans ton roman? A repris Nina. Comment tu aimerais t'appeler? Angélique. Étienne a éclaté de rire. Qu'est-ce que tu peux être ringarde? Et toi? A demandé Adrien à Étienne. Comment tu aimerais t'appeler dans mon roman? Kurt. Comme Kurt Cobain. Oui. Nina Beau, voulez-vous prendre pour époux Emmanuel Jean-Philippe Damam? Oui, je le veux. Vous voilà unis devant Dieu, vous pouvez vous embrasser. Les orgues, Jean-Sébastien Bach, signe de croix, félicitations. Jetant un œil au Christ blanc, Nina ne peut s'empêcher de penser à son grand-père, que l'on a enterré 11 mois auparavant. Elle s'empêche de penser que c'est peut-être elle que l'on enterre à présent. Étienne et Adrien ont planté une mauvaise graine dans sa tête, une graine qu'elle veut détruire avant qu'elle ne pousse. Ce qu'elle ignore, c'est qu'il est trop tard. Quand on coupe la tête, on n'arrache pas les racines. Il est 16h. Tous les invités se réunissent pour la photo de groupe. Puis un verre est offert par les damams en l'honneur des mariés dans le jardin de la cure. 300 personnes au bas mot. Presque toute la Comelle, parmi lesquelles un grand nombre sera trié sur le volet pour le dîner. Des gens que Nina ne connaît pas viennent la féliciter, lui répétant « Tu es si belle !» Vous êtes ravissante. Vous allez faire bien des envieuses. À tous, Nina sert la même réponse. Merci. Les Beaulieu, Adrien et Joséphine sont réunis. Louise sourit. Elle semble heureuse. Ne cesse d'admirer Nina. Marie-Laure et Joséphine boivent coupe sur coupe en papotant joyeusement. Marc discute avec Adrien qui semble penser à autre chose, comme d'habitude. Mais à quoi pense-t-il donc? Songe Nina. Adrien et Louise, je n'ai rien vu. On croit tout savoir de ses amis et au fond, on ne sait rien. Comment va Madame Damam ? Lui demande Emmanuel en l'embrassant dans le cou. Elle est heureuse. Et comment va mon mari ? Fou de joie. Je t'aime. Je t'aime. C'est irréel, pense Nina. Elle va s'asseoir un peu à l'écart, à l'ombre. On vient de lui servir une coupe de champagne. Je suis à mon mariage, se dit-elle. Aujourd'hui, c'est mon mariage. Elle balaie à nouveau l'assemblée du regard. Beaucoup d'amis d'Emmanuel, des gens de son âge, presque la trentaine. Les filles sont belles, grandes, élancées. Deux d'entre elles sont enceintes, d'autres se penchent vers leur petite tête blonde. Des bébés et de tout jeunes enfants. Les poussettes et les chaises pour les vieux se côtoient. De temps en temps, les amis d'Emmanuel regardent Nina gentiment, la gratifient de sourires complices. Nina a tiré le gros lot. Emmanuel Damam a fait chavirer bien des cœurs, et c'est cette petite qui l'a pris dans ses filets. Cela force l'admiration. Nombre de ses intimes ont été surpris quand Emmanuel leur a annoncé son mariage avec Nina. Tout était allé si vite, ils n'avaient jamais vu leur ami amoureux. Le plus beau de la bande enchaînait les aventures sans jamais s'aventurer longtemps. Depuis quelques minutes, Nina ne comprend pas son malaise. Cela se répand peu à peu en elle. Quelque chose la perturbe, lui comprime l'estomac, ou quelqu'un. Son visage parmi tous les inconnus. Nina serre sa coupe entre ses doigts. Elle l'identifie, fait un gros plan sur lui, comme si elle faisait le point avec un appareil photo. Ce qui était trouble devient net. Elle le reconnaît. Il est là, devant le buffet, se gavant de saucisson. Il porte un costume mal coupé, parle avec sa femme comme si de rien n'était. Qui l'a invité ? Qui a osé ? Comment ses beaux-parents ont-ils manqué de délicatesse à ce point ? Nina se lève tant bien que mal. Ses jambes la portent difficilement. Elle cherche Emmanuel dans la foule, comme une envie de fuir. La voiture est neuve. Le réservoir est plein. Les mots des garçons résonnent différemment tout à coup. Quelqu'un lui attrape le bras, le serre presque trop fort, c'est Emmanuel. « Ça va, mon amour ?»« Non, » répond Nina. « Il est là. »« Qui ?»« L'homme qui a tué mon grand-père. » Emmanuel semble un instant ne pas comprendre de quoi parle sa femme. « Ah !» finit-il par répondre. « Je l'ai invité au vin d'honneur. » Ça fait tellement plaisir au personnel de participer à notre fête. C'est toi qui l'as invité ? Oui, pardonne-moi, j'aurais dû t'en parler. Mais il l'a tué ? Mon amour, c'était un accident. Ce pauvre monsieur Blondin n'y est pour rien. Allons, souris, tu n'as pas le droit de faire la tête aujourd'hui. Nina ne parvient plus à dire un mot. Ce pauvre monsieur Blondin. Va voir tes deux témoins, lui souffle Emmanuel à l'oreille. Ils ont l'air de s'ennuyer. Nina le regarde à présent, cherchant quelque chose dans le beau regard de son mari, quelque chose qu'elle ne trouve pas, ne voit pas. L'ombre au tableau. C'est parce qu'Étienne et Adrien sont mes témoins que tu as invité le criminel ? Emmanuel s'assombrit, il lève les yeux au ciel. De quoi parles-tu ? Tu étais contre, tu ne voulais pas que ce soit eux. Avoue que tu ne les aimes pas, que tu es jaloux de notre amitié. Tu as trop bu, tiens-toi s'il te plaît. Après l'accident qui a causé le décès de Pierre Beau, Blondin est parti en pré-retraite. Les gendarmes n'ont pas pu établir qui des deux était responsable du refus de priorité, Pierre Beau ou le chauffeur de poids lourd. Ce dernier, arrivant par la gauche, était tenu de céder le passage au vélo sur la droite. Mais il certifiait que Pierre Beau arrivait de la rue Jean Jaurès, située à gauche de la place. Or, Nina a toujours été persuadée que son grand-père arrivait de la rue Saint-Pierre, située à la droite du chauffeur. Le camion ayant traîné le corps du pauvre facteur sur plusieurs mètres, les gendarmes et experts en assurance n'ont rien pu prouver, et aucun témoin n'avait assisté à l'accident. Quelques semaines plus tard, Nina est allée questionner les habitants de ces deux rues pour savoir s'ils avaient reçu du courrier dans leur boîte aux lettres ce jour-là. Tous ont répondu que oui. Par laquelle de ces deux rues Pierre Beau avait-il commencé sa distribution ? Nul ne le saura jamais. Mais Nina continue à en vouloir à Blondin, qu'elle considère comme un criminel. Elle a tenté de le questionner, l'a suivi dans la rue une fois. Il a accéléré le pas, Alors Nina est allée chez lui. C'est sa femme qui a ouvert la porte. Son mari n'était soi-disant pas là. Nina était sûre qu'il se planquait à l'intérieur. Elle n'a pas insisté. À quoi bon? Cela ne lui ramènerait pas son grand-père? De plus, si elle arrivait à prouver que le chauffeur était responsable, cela retomberait sur les Damam, famille qui est la sienne à présent. Quelques heures plus tard, les mariés ouvrent le bal en valsant. C'est la mère d'Emmanuel qui a montré les pas à Nina. Avec beaucoup d'humour, Gertrude Damam a expliqué à sa belle-fille que, ne pouvant décemment pas porter ce prénom d'autruche, elle se faisait appeler G, et surtout pas Gégé. Elles se sont entraînées dans la grande salle à manger. G pieds nus et Nina en basket. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est ainsi que Nina a vraiment fait connaissance avec sa belle-mère, en lui marchant sur les pieds. Elles se sont retrouvées dans un huis clos joyeux et musical. L'intimité est quasi inexistante au château. Le dimanche, on est toujours au minimum 10 à table, entouré de personnel. Nina a découvert une femme drôle et bienveillante. Tout le contraire de ce qu'elle laisse paraître de prime abord. Une certaine réserve, presque une froideur. G lui a posé des questions sur son enfance, sur son grand-père. Pas pour savoir, mais pour comprendre. Pas de questions intrusives, juste de l'intérêt. Nina n'a pas raconté l'épisode de Marion qui est venue voler, reprendre ce qui lui appartenait le soir de l'enterrement. Nina a juste dit à G qu'elle ne connaissait pas sa mère, qu'elle ne l'avait jamais vue, n'en avait aucun souvenir et que son grand-père l'avait élevée dans l'amour. Quand Nina s'adresse à ses beaux-parents, elle pèse ses mots, les réfléchit. Elle ne laisse aucune place à la spontanéité. Ces gens-là ne sont pas de son monde. Ils ont fait de grandes écoles et sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Étrange expression que son grand-père utilisait parfois. Nina redoute Henri-Georges, le père d'Emmanuel. Elle rase les murs lorsqu'elle le croise. Il se montre chaleureux autant qu'il le peut, car cet homme n'est pas à proprement parler un rigolo et son regard est si hautain que Nina a l'impression de devoir lever la tête vers le ciel quand il lui adresse la parole. Tous deux échangent banalité et politesse. Voilà tout. Ce matin, alors que Nina enfilait sa robe de mariée sous les yeux émerveillés de Marie-Laure et Joséphine, qui ne cessaient de dire « Que tu es belle, mais que tu es belle !» G est arrivée à son tour. Elle s'est exclamée « Dieu, que ma belle-fille est belle !» Pendant que Marie-Laure faisait du café pour tout le monde, G a ouvert son beau sac à main. La tradition veut que la mariée soit en possession d'un objet bleu, d'un objet neuf, d'un vieil objet et d'un objet emprunté le jour de son mariage. Et elle a offert à Nina un saphir, un bracelet en or blanc dans son écrin, une magnifique bague ancienne sertie de diamants, puis elle a retiré sa propre bague de fiançailles pour la lui prêter. Nina a observé les trois femmes qui l'entouraient, prenaient soin d'elle. Pourquoi sa mère n'avait-elle jamais voulu d'elle? Le lieu de la fête se trouve à environ 7 km de la Comelle, dans une propriété prévue pour recevoir une centaine d'invités, cuisine, grande salle de réception, jardin, piste de danse, bâtiment adjacent contenant plusieurs appartements et dortoirs pour ceux qui restent sur place. Le cadre est somptueux, les fleurs omniprésentes, comme si les rosiers blancs avaient envahi les murs et les plafonds depuis des siècles. Tout est éclairé à la bougie, un décor de conte de fées. Ce sont les parents d'Emmanuel qui se sont occupés de tout. G a demandé aux jeunes mariés de choisir le menu et la musique qu'ils souhaitaient. Le bal sera classique dans un premier temps, avec orchestre et violon. À partir de minuit, un DJ viendra mixer et on servira des tequilas. Pour l'heure, les yeux dans les yeux, les mariés tourbillonnent sous le crépitement des flashs. Nina est ivre. Seuls Étienne et Adrien savent ce que les autres ne verront jamais. Ce qui brille dans son regard n'est pas la joie, mais le champagne. Quelques couples les rejoignent, ils dansent une vingtaine de minutes, puis chacun retrouve sa table. Le ballet est parfait, les sourires sont présents, sauf sur le visage d'Adrien. Étienne est dans le même état que Nina, il a picolé tout l'après-midi. Pour l'heure, il boit un peu d'eau pour s'éclaircir les idées. C'est lui qui doit lire le discours qu'Adrien et lui ont préparé pour les mariés. C'est surtout Adrien qui l'a rédigé. Comme ce dernier refusait de prendre la parole en public, il a fait un pacte avec Étienne. « J'écris, Tully. Tintement d'un couvert en argent contre un verre en cristal. Silence. Nerveux, Étienne se lève, s'éclaircit la voix, a une soudaine envie de rire qu'il réprime. C'est pas le moment. Qu'il est beau, cet enfoiré, pense Nina en avalant une gorgée de champagne. Quand l'un est si timide, l'autre est tout aussi réservé, mais préférerait mourir que le montrer. L'émotion la gagne avant même qu'Étienne n'ouvre la bouche. Emmanuel pose sa main sur son genou. Elle sent la pression de ses doigts sur sa peau, comme s'il cherchait à juguler son trouble. « Chère Nina, Adrien et moi-même avons rédigé ce discours en ton honneur. Même si tu te doutes que c'est lui qui s'y est collé. Moi, j'ai fait que regarder. Comme quand on faisait nos devoirs et nos révisions ensemble. Des deux garçons, c'est moi le cancre. Et de nous trois, c'est vraiment moi. Mais je m'égare. » Étienne cherche le regard de son père avec défiance, puis déplie une feuille qu'il avait glissée dans sa poche. « Notre chère Nina, nous n'avons aucun souvenir avant toi. Pourtant, nous nous sommes rencontrés lorsque nous avions 10 ans. Mais avant toi, les souvenirs n'existent pas. Tu es le commencement. Nina, tu es la bonne élève, l'amie, l'artiste, le rire, la sœur, notre lumière. Et pas celle d'une lampe de poche. Non, toi tu es l'astre, l'astéroïde. L'unique, la rivière, notre trait d'union. 3. C'est ainsi que nous avons grandi. L'expression veut qu'on dise « ils sont comme les 5 doigts de la main ». Jusqu'à aujourd'hui, notre main n'avait que 3 doigts. Mais cela ne nous a pas empêchés de grandir ensemble. Moi sur la gauche, toi au milieu, Adrien sur la droite. Nous avons poussé dans les mêmes pièces, trottoirs, écoles, caves. Nous avons poussé dans les mêmes rêves. Sais-tu ce qu'est le salut à 3 doigts? Le pouce, l'index, le majeur. C'est un geste qui représente le serment de fidélité. Nous te serons toujours fidèles, à la vie et à la vie. Toi, par définition, tu es le majeur, même si c'est à l'annulaire qu'aujourd'hui, ton bel époux a glissé une alliance qui représente votre amour, votre union. Mais revenons à toi, Nina. Artiste avant tout, vive et vivante, dessinatrice de génie à plein temps et chanteuse à tes heures, des heures que l'on te rend. Nos chansons vont rejoindre nos souvenirs, ceux de notre enfance et de notre adolescence. Tu as une vie à construire. Sans ta voix, nos compositions vont se décomposer, mais ce n'est pas bien grave. Nous ne manquerons pas à notre public puisqu'il n'existe pas. Les kermesses de fin d'année et fêtes de la musique ne s'en porteront que mieux. Aujourd'hui, nous te perdons un peu, mais c'est sans doute pour ton bonheur. Tu n'as jamais rien fait comme les autres. Tu as toujours eu une époque de plus que nous. Tu es la fille et nous les garçons, tout simplement. C'est si petit, un garçon, à côté d'une fille. On dirait toujours que ça a une vie de moins. Le poète ne dit-il pas que la femme est l'avenir de l'homme ? Chère Nina, avant, tu avais 2 familles. Les nôtres. À partir d'aujourd'hui, tu en rejoins 1/3. Encore ce chiffre qui revient, comme la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La ritournelle de ton existence. Tu vas fonder une nouvelle famille avec Emmanuel. Aujourd'hui, ton bonheur lui appartient, vous appartient. Emmanuel, ce soir, nous te confions notre sœur. Il y a certaines choses d'elle que tu ignores encore, que tu vas découvrir avec les années, comme sa bonne humeur. C'est une seconde nature chez elle, de sourire. Nous t'avons fait une liste non exhaustive, parce que les listes, elles changent, en 3 points. Ce que Nina aime, ce que Nina n'aime pas, et enfin, ce que nous n'aimons pas chez Nina. Nina aime les pains au chocolat et le café noir. Les chiens, chats, cochons, veaux, vaches en liberté, jamais dans son assiette. Elle peut pleurer devant un bœuf bourguignon. Emmanuel, on t'aura prévenu. Et elle nous a très souvent foutu la honte devant un sauciflard. Elle aime aussi les parfums vanillés, sur la peau et dans ses plats. la piña colada et le malibu, le sel des frites, la moutarde, les tomates, fureter dans les tiroirs, danser, nager, Colombo, les baskets moches, la tarte aux pommes, les crèmes dessert, la sauce au poivre, les patates, le fromage, les tartines, les cerises. Elle n'aime pas l'amertume du pamplemousse, faire la queue, les gens qui ont une poignée de main molle, les glaçons et les desserts chauds. Ne lui offre jamais de manteau de fourrure, sauf si tu veux t'en débarrasser. Pas du manteau, mais de ta femme. Ce que nous n'aimons pas chez Nina, elle nous dessine toute la journée, même au réveil, même quand on dort, qu'on a de l'acné et des poches sous les yeux. Elle nous fait poser pendant des heures. Elle est nulle aux jeux vidéo et au tennis, mais elle veut absolument participer. Un cauchemar. Elle pose des questions cheloues aussi, tout le temps. Du genre, pourquoi les bananes sont jaunes? Ça vient d'où la salive? Pourquoi il m'a pas regardé? Pourquoi les larmes sont salées? Pourquoi certaines personnes sont silencieuses? Pourquoi les gens s'en foutent en général? Pourquoi on dit tomber dans les pommes? Pourquoi des pommes, à votre avis? À quoi ça pense, un ver de terre? Emmanuel, on t'aura prévenu. On a toujours dit qu'elle n'avait pas le sens de l'orientation, qu'elle se perdait pour un oui, pour un non. C'est faux. Et nous en avons la preuve irréfutable aujourd'hui, puisqu'elle t'a rencontré. Nous vous souhaitons à tous les deux le bonheur d'un monde, le vôtre. Le reste fera son affaire. Étienne se rassied. Tout le monde applaudit. Nina se lève pour embrasser les deux garçons. Pudique, Étienne lui dit « J'ai su pour rien. C'est pas moi. J'ai pas écrit. » Et Adrien lui glisse à l'oreille « Pour toi, nous aurons toujours une voiture neuve, avec le plein d'essence. »